Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Après l'invasion de l'Ukraine, les États membres de l'Union européenne ont expulsé des centaines de diplomates russes parce qu'ils menaçaient leur sécurité nationale. Une enquête de Radio Free Europe vient de révéler qu'au moins 4 d'entre eux ont été réaffectés à l'ambassade de Russie, à Belgrade. Simon Rico.
Tous ces diplomates russes sont soupçonnés de travailler sous couverture pour les services secrets, mais cela ne semble pas poser de problème aux autorités serbes qui ont accepté sans sourciller leur déploiement à l'ambassade de Russie à Belgrade, où le nombre d'employés a été renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est ce qu'ont découvert les journalistes des différentes rédactions de Radio Free Europe, établies dans plusieurs pays de l'Est du vieux continent. Radio Free Europe, c'est un média lancé par les États-Unis au début de la guerre froide pour contrer la propagande soviétique de l'autre côté du rideau de fer. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, son siège se trouvait à Munich. Ces révélations viennent souligner la position très ambiguë de la Serbie vis-à-vis de la Russie, adepte d'une diplomatie dite non alignée. Belgrade refuse de s'aligner sur les sanctions occidentales contre le Kremlin et maintient ses liaisons aériennes directes vers Moscou. En 2019, pourtant, le président Vučić avait annoncé la découverte d'un réseau d'espionnage russe lié à l'ambassade. Une étrange affaire, d'autant que peu après, l'homme fort de Belgrade avait expliqué que la Russie était un pays frère et ami. Voilà en tout cas une affaire qui tombe mal au moment où les Occidentaux poussent très fort pour que la Serbie signe un accord en vue de normaliser ses relations avec le Kosovo et stabiliser les Balkans.
La lutte pour le droit des femmes au Monténégro. Les femmes y sont toujours victimes de nombreuses discriminations, à commencer par les avortements sélectifs. C'est une pratique courante dans le pays pour favoriser les naissances de garçons. Les ONG et la jeune génération se battent pour faire évoluer les choses et pour donner une plus grande visibilité et un meilleur accès à l'emploi aux femmes monténégrines. Un reportage de Louis Seyé.
Avec ses cheveux teints en rouge et ses bracelets gothiques, Maria se moque bien des canons de beauté classique. Comme pour la centaine de personnes qui ont manifesté dans le centre de Podgorica, la journée de la femme du 8 mars dernier a été l'occasion pour la jeune femme de 21 ans de rappeler son désir de se défaire des traditions patriarcales.
Avant, quand on allait rendre visite à des membres de ma famille, il y avait toujours une femme qui subissait les violences mentales ou physiques de ses proches. Et elle ne pouvait pas se séparer de son mari parce qu'elle ne disposait pas de ses propres finances ni de son propre compte bancaire. Et elle n'avait pas non plus la possibilité de trouver un travail plus solide et une meilleure éducation. Dès leurs premières années, les filles de ce pays sont élevées pour respecter les hommes plus qu'elles-mêmes, pour respecter la famille, pour ne rien remettre en question, pour n'avoir aucune aspiration en dehors de la famille. Et je suis contente que ça change depuis quelques années, mais c'est toujours un gros problème.
Did you know that around 126 million of women in the world are believed to be missing?
Un exemple, au Monténégro, le ratio des sexes à la naissance montre un net déséquilibre. Chaque année, il naît en moyenne 109 garçons pour 100 filles. Un écart qui s'explique du fait du recours au test prénatal devenu facilement accessible et aux avortements sélectifs, comme le dénonce depuis des années le Conseil de l'Europe. Maja Rajicevic est la directrice du Centre pour les droits des femmes basé à Podgorica.
Ce choix de l'avortement sélectif résulte d'une tradition négative qui valorise les garçons au détriment des filles. Ainsi, au Monténégro, cela relève en quelque sorte de la tradition familiale. La mère doit donner un héritier mâle pour porter le nom de la famille. À cause de tout cela, les filles sont moins désirables et cela se reflète dans la démographie.
Petit pays montagneux de 620 000 habitants, situé au bord de la mer Adriatique, le Monténégro conserve de fortes traditions patriarcales. À 39 ans, Milana travaille dans l'administration dans la capitale. Elle veut croire que ces pratiques appartiennent au passé.
Auparavant, il était plus courant pour une femme de rester à la maison, de s'occuper de la maison, préparer le déjeuner, s'occuper des enfants. Et les hommes étaient ceux qui gagnaient de l'argent. Mais maintenant, ça change. Les femmes se sont émancipées et elles sont même plus fortes que les hommes dans certains domaines. Elles sont donc égales.
Malgré certaines évolutions positives, les femmes du Monténégro trouvent toujours difficilement du travail. Alors qu'elles sont souvent plus diplômées et mieux formées que les hommes, selon une enquête des Nations Unies, plus d'une Monténégrine sur deux serait aujourd'hui au chômage. En moyenne, leurs rémunérations sont également inférieures de 14% à celles des hommes. Maja Rajicevic.
En Yougoslavie socialiste et jusqu'en 1993, nous avions une organisation de femmes très forte qui était soutenue par l'État. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de tout cela. Et d'un autre côté, nous avons un ordre capitaliste qui encourage fortement l'exploitation des jeunes et des femmes en particulier. Nous devons aussi faire face à la forte influence de l'Église, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et cela se traduit par le fait que certaines valeurs conservatrices sont promues dans la société. Celles-ci ont un impact négatif sur les droits de l'homme et principalement sur les femmes et sur les personnes LGBTQI.
Proche de Belgrade et du pouvoir politique, la très puissante Église orthodoxe avait mobilisé des foules impressionnantes en 2020 pour dénoncer une loi qui menaçait ses titres de propriété. Elle reste très influente au sein des familles monténégrines. Comme beaucoup d'églises en Europe, elle tient un discours conservateur qui attaque notamment les libertés et les droits des femmes.
L'Italie a perdu 179 000 résidents entre 2021 et 2022. C'est un nouveau record négatif. Selon les données publiées par l'Institut national de statistique, le nombre de naissances a encore baissé, moins 1,9%. Depuis des années, l'Italie souffre de dénatalité. Les naissances sont moins nombreuses que les décès. La région des Marches tente d'alerter sur la situation. Il faut dire que dans cette province italienne, les chiffres sont particulièrement préoccupants. C'est un reportage à Ancône de notre correspondante Cécile Debarge.
En cette matinée de fin d'hiver, les rues du centre-ville d'Ancône sont étonnamment tranquilles et silencieuses. Rien à voir avec le tumulte que l'on associe aux grandes villes italiennes, klaxons, musique, voix qui se chevauchent. Ici, le froid semble figer une cité assoupie. En 2021, la population du chef-lieu des Marches est passée sous le seuil symbolique des 100 000 habitants. L'âge moyen est de 45 ans pour les hommes, 49 ans pour les femmes. Les naissances, elles, s'écroulent comme dans le reste du pays. Dans ses bureaux installés dans un vieil immeuble de la Piazza Roma, le professeur Marcello Bedeschi commente les résultats d'une étude pilote qu'il a menée sur la dénatalité dans les Marches. Il est le coordinateur national des directeurs et secrétaires de l'ANCI, l'association nationale des communes italiennes.
Certains maires des Marches ont remarqué que leur commune commençait à perdre des habitants. Ça se voyait surtout au moment des inscriptions à l'école. Il fallait fermer des classes. Et pour les activités sportives, il n'y avait plus assez de jeunes.
Seules 5 communes des 225 de la région ont enregistré un solde démographique positif l'année dernière. En 10 ans, les naissances se sont effondrées de près d'un tiers. Marcello Bedeschi avance l'une des principales raisons identifiées à cette baisse de la natalité.
La situation économique y est pour beaucoup. L'autre problème, c'est celui du logement. Ça coûte cher. Et si les salaires des familles ne leur permettent pas d'élever leurs enfants, ça ne va pas.
Début 2023, lors d'une conférence de presse organisée à Ancône, le professeur Bedeschi, aux côtés du directeur de l'Institut national de statistique et du Forum des familles, a tenté de réfléchir à des solutions. Car, sans coup de pouce de l'État, les perspectives d'avenir ne semblent pas prêtes à changer.
Il faudrait des soutiens économiques, des aides sociales, c'est ce qu'on appelle le welfare. Et en termes de welfare, la question c'est, quelle aide donne-t-on vraiment aux enfants, aux adolescents, aux familles qui viennent d'avoir un enfant?
Récemment, le gouvernement italien a mis en place un bonus babysitter pour aider les parents à en supporter le coût et a augmenté d'une dizaine d'euros par enfant les allocations familiales. Mais au-delà du soutien économique, se pose aussi la question des infrastructures à disposition des jeunes parents, explique Fabiolo Savio de l'ANCI, qui prend l'exemple du taux de natalité des femmes étrangères, traditionnellement plus important que celui des femmes italiennes. Il est passé de 2,5 enfants par femme en 2008 à 1,87 aujourd'hui.
Les familles immigrées font moins d'enfants qu'avant. Et ça n'arrive qu'en Italie, car dans le reste de l'Europe, là où les services sont meilleurs, c'est le contraire. Donc ça veut bien dire que c'est dû au fait que les services offerts ici ne sont pas bons.
Alors, qu'en disent les jeunes parents de la région ? Ilenia a 34 ans et 2 enfants de 2 ans et 5 mois. Responsable administratif dans une entreprise privée, elle pointe du doigt les difficultés à trouver des solutions de garde pour les enfants, pour les parents qui travaillent.
Les grands-parents sont une aide fondamentale. C'est le seul soutien qu'on peut avoir, ou bien, pour ceux qui peuvent se le permettre, une babysitter.
Mais avant de rencontrer ces difficultés, c'est dès qu'ils songent à fonder une famille que les jeunes Italiens se heurtent à la précarité de leur situation.
C'est vrai qu'on peut avoir 33, 34 ans, mais il faut aussi reconnaître qu'en Italie, la stabilité professionnelle arrive assez tard. Et donc, j'ai des amis qui attendent encore avant d'avoir un CDI. Et être enceinte sans CDI, c'est un risque.
Roberta a 45 ans, 3 enfants de 25 à 10 ans. Pour elle, les raisons qui découragent le plus les futurs éventuels parents sont plus profondes.
Le manque de stabilité, d'un futur que tu peux offrir à tes enfants, sincèrement, les perspectives qu'on a ne sont pas vraiment roses.
Les mots d'Ilenia et de Roberta, on les entend souvent lorsqu'on demande aux jeunes Italiens pourquoi ils préfèrent ne pas avoir d'enfants. Si les marches veulent aujourd'hui alerter sur le phénomène, c'est que la région a vécu un grave tremblement de terre en 2016 qui a joué un rôle d'accélérateur, explique Fabio Lo Savio.
Nous, dans les marches, nous avons pris conscience de ce phénomène dès le séisme de 2016. Ça a surtout touché l'intérieur des terres et cela a provoqué un dépeuplement. Les maisons n'étaient plus habitables et les gens sont partis vers les côtes. Dans la phase de reconstruction qui a lieu en ce moment, la question qui se pose est donc la suivante. Doit-on reconstruire comme c'était alors qu'on sait que les personnes sont parties et qu'elles reviendront difficilement ?
Car dans certaines communes, les travaux de reconstruction sont presque terminés, mais les habitants de 2016 ne sont plus ceux de 2023. Selon les projections les plus pessimistes, la population italienne descendra sous les 48 millions d'habitants en 2070 contre 59 millions aujourd'hui et enregistrera 2 fois plus de décès que de naissances. Le PIB italien, qui avoisine actuellement les 1 800 milliards d'euros, sera divisé par 3 d'ici 2070 en raison de l'effondrement de la population active. Un chiffre qui rend impossible le maintien du système social italien de retraite ou de santé tel qu'il existe aujourd'hui.
Depuis 2 semaines, un vent d'inquiétude souffle sur la planète finance. C'est l'Europe du net de Clémence Pénard. Bonjour Clémence.
Bonjour Juliette.
La Silicon Valley Bank a fait faillite. C'était la 16e plus grosse banque américaine. Rien ne va plus sur les marchés. Les investisseurs angoissent. Les politiques, eux, tentent de rassurer les populations. Alors Clémence, est-ce que les banques européennes pourraient être contaminées à leur tour ? C'est la question en tout cas que se posent beaucoup d'internautes.
Et oui, depuis l'effondrement de la SVB, la Silicon Valley Bank, sur Twitter, ils sont nombreux, visiblement inquiets, à se demander s'ils ne feraient pas mieux de retirer leurs billets de banque et les cacher sous le matelas, tout simplement. Anis Lajnef l'a constaté, au moment de l'annonce de la faillite de la SVB, les tweets de cet ancien trader sont vus plus de 3 millions de fois. Pour lui, les réseaux sociaux peuvent mettre de l'huile sur le feu.
Il y a un mélange où la parole est libre, tous ceux qui ont un peu d'expertise peuvent parler, des rumeurs même mensongeurs peuvent partir. Tout ça avec les news mainstream peuvent faire que justement les choses s'accélèrent et les choses financières s'accélèrent. Et c'est ce qui s'est passé pour la Silicon Valley Bank. Comme la monnaie repose sur la confiance, ça s'est répandu sur les réseaux sociaux et on a eu un des premiers bank run électroniques. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait ces images où les gens faisaient la queue pour retirer leur argent. Ben maintenant, ça se fait d'un seul clic.
Le hashtag SVB sur Twitter a été utilisé plus d'un million de fois et on ne compte plus le nombre de mèmes également sur le sujet. Vous savez, ces petits montages photo rigolo. Il existe d'ailleurs un compte dédié qui reprend les initiales de la banque, SVB pour Seriously Very Broke. Comprenez, sérieusement très ruiné. Mais évidemment, ça ne fait pas rire tout le monde puisque ces défaillances de banques outre-Atlantique ravivent un souvenir douloureux, celui du spectre de la crise financière de 2008.
Justement, Clémence, est-ce qu'il y a un effet boule de neige possible comme ce qu'on a vécu il y a maintenant 15 ans ?
En 2008, la faillite de Lehman Brothers avait provoqué celle de de plus de 70 autres banques en très peu de temps. Pour le moment, on n'en serait pas là et le système, depuis cette crise des subprimes, serait beaucoup plus sécurisé. Déjà, les autorités américaines se sont très vite saisies du problème. Elles ont pris officiellement le contrôle de la SVB pour tenter d'éteindre l'incendie financier. Ensuite, les États ont mis en place des réglementations pour justement protéger l'argent déposé sur les comptes bancaires. La Fed, par exemple, la Réserve fédérale, c'est la banque centrale des États-Unis, dit pouvoir assurer les clients des banques jusqu'à 250 000 dollars, soit environ 233 000 euros. Et pour ce qui est de la zone euro, c'est pareil. En vertu d'une législation adoptée en grande partie après la crise de 2008, le minimum de protection pour chaque pays, c'est 100 000 euros par client et par banque.
Donc, s'il existe ce genre de système de protection, il n'y a pas de raison d'être inquiet.
En France, on a entendu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, déclarer qu'il n'y avait pas de risque de contagion. En fait, le mot d'ordre, c'est rassurer et rassurer coûte que coûte. Parce qu'en fait, le pire, ce serait de créer un mouvement de panique, comme ce qu'on peut voir sur les réseaux. On appelle ça dans le jargon des traders, tout simplement une panique bancaire. C'est quand il y a un mouvement global des clients qui retirent en masse leurs économies. Et là, c'est la faillite assurée. Ainsi, on préfère ces paroles apaisantes.
Merci Clémence Pénard, à bientôt. À l'écoute des réfugiés mineurs, mineurs non accompagnés, c'est le nom de la pièce qui se joue jusqu'au 25 mars au Théâtre National de Strasbourg dans l'Est de la France. Les deux acteurs et metteurs en scène de cette pièce, Sonia Chiambretto et Johan Tomerel, se sont immergés en Normandie dans un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés. Ce spectacle est le premier volet d'une trilogie sur les ghettos, Viloen Munoz-Boileau.
Moussa, 14 ans.
Debout derrière un micro et face aux spectateurs, Sonia Chiambretto et Johan Tomerel incarnent tour à tour des mineurs étrangers et leurs éducateurs.
Quand je suis arrivée, la maison était recouverte de ronces.
Pendant un mois, les deux metteurs en scène ont enregistré, filmé et photographié la vie d'un centre d'accueil. Ces tranches de vie sonores et visuelles sont reprises dans la pièce et servent de bande-son et de décor projetés sur des écrans et des structures en carton. Le spectateur est ainsi plongé à son tour dans le quotidien du centre. Un quotidien marqué par le manque de moyens, comme a pu l'observer Johan Tomerel.
Cette précarité, elle est à tous les endroits. La manière dont les jeunes vivent au quotidien, ce qu'ils mangent, où ils dorment, la difficulté pour eux d'avoir des choses aussi importantes que de l'intimité, par exemple. Quand on est 8 par chambre, 8 adolescents, c'est compliqué. Mais la précarité, elle existe aussi de manière très forte du côté des éducateurs qui sont pas assez nombreux, qui ont très peu de moyens pour travailler. Donc en fait, même si ils sont pleins de bonne volonté et qu'ils sont très engagés dans leur travail, on ne crée pas les conditions pour qu'un travail réel puisse se faire ensemble, un travail d'accueil. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité à la française.
Une hospitalité à la française marquée aussi par une violence administrative, comme en atteste cette scène inspirée du témoignage d'un jeune mineur du centre.
Le médecin a fait une radiographie de mon poignet et de ma mâchoire, puis il a dit « Tu veux bien baisser ton pantalon ?» J'ai pas voulu. Il a dit « Oui, il faut baisser ton pantalon. » J'ai dit « Non. »
Sonia Chiambretto tenait ici à montrer ce que subissent ces enfants et adolescents qu'on soupçonne souvent, à tort, de se faire passer pour des mineurs sans famille afin d'obtenir l'asile.
Dis la vérité, tu n'es pas un mineur, tu mens.
Ce sont des enfants. Après, bien sûr, de temps en temps, il y a un jeune majeur qui arrive à sauver sa peau en se faisant passer pour un mineur. Mais c'est rien, c'est un tout petit pourcentage.
Les jeunes souhaitent que leurs anniversaires soient fêtés, même simplement, par exemple, qu'on leur chante « Happy Birthday ».« Happy Birthday ».
Malgré la gravité du sujet traité, la pièce est pleine d'humour. Les deux metteurs en scène ont également eu à cœur de montrer que ceux qu'on qualifie de mineurs non accompagnés sont avant tout des adolescents comme les autres.
Un jeune m'interpelle sur l'état des ballons de foot. Il me dit que même dans son pays, les ballons ne sont pas pourris comme ceux-ci.
Très présent dans les dialogues, le foot l'est aussi sur scène, puisque toute la pièce se déroule sur un terrain de foot matérialisé par un tracé vert et blanc au sol, jonché de vieux ballons.
Une des activités principales des jeunes gens, c'est de jouer au foot. Ils pensent que le foot va leur ouvrir beaucoup de portes. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec une émancipation.
Fondateur du groupe d'information sur les ghettos, un collectif d'artistes qui interroge les mécanismes d'exclusion et de repli, Sonia Chiambretto et Johan Tomerel se définissent comme des passeurs d'histoire et de récits. Et s'ils ont créé ce spectacle, c'est dans une visée poétique et politique.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute. Bientôt. Et toi.